Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat. Nous sommes très heureux de vous rejoindre par les ondes avec cette toute nouvelle émission que nous avons commencée en écoutant le superbe Alléluia de Buxtehude et qui introduira toutes nos émissions. Je m'appelle France Andrieu et la joie de travailler pour l'association Marie de Nazareth depuis quelques années. Cette émission est proposée justement par l'association Marie de Nazareth. Nous nous retrouverons tous les dimanches entre 17h30 et 18h. Justina sera présente toutes les semaines à mes côtés pour nous apporter des enseignements sur différents thèmes. Justina, notre brillante amie orthodoxe, est titulaire d'un Master 2 de théologie, mais elle nous en dira davantage dans quelques minutes. En fin d'émission, je vous parlerai de cette très belle dévotion à Marie qui défait les nœuds. Mais commençons sans tarder avec Jérôme Stevenson. Bonjour, mon invité cette semaine. Bienvenue. Vous êtes le vice-président de l'association Marie de Nazareth. Vous y œuvrez depuis de nombreuses années déjà. Parlez-nous de cette belle association qui existe depuis plus de 20 ans. Alors, dites-moi, quelle est la spiritualité de l'association? Parlez-moi de cette belle association.
Bonjour France, bonjour Justina, merci de m'avoir invité, merci d'avoir organisé cette émission, merci à Radio Courtoisie de l'avoir acceptée et de la diffuser. J'espère que je ne vais pas commencer par un gage avec mon nom Stevenson à Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre et François m'ont dit surtout pas de nom anglais, de mots anglais, j'ai l'impression de commencer assez mal. Je ne sais pas si vous avez une remarque à faire France.
Allez-y.
Bon, alors l'association Marie de Nazareth, nous sommes avant tout une équipe d'hommes et de femmes, de laïcs, accompagnés par des religieux, des prêtres, et nous souhaitons participer avec la Vierge Marie à l'œuvre d'évangélisation du monde. L'association est née comme un fruit du mouvement de prière des Vierges pèlerines, dont certains de vos auditeurs se souviennent très certainement. C'est à cette occasion qu'Olivier Bonassi, notre directeur exécutif de Marie de Nazareth, a commencé à œuvrer dans des actions en faveur de la foi. Ce mouvement de prière avait pour vocation de préparer le grand jubilé de l'an 2000 dans la prière avec Marie. Il s'est conclu par une nuit étonnante qui avait été organisée dans le champ des bergers à Bethléem, à l'occasion de l'ouverture des portes saintes de Rome et de Bethléem. C'est à la suite de cette soirée mémorable qu'Olivier Bonassi et Jacques de la Bastide, notre ancien président, ont eu l'idée de construire le Centre international Marie de Nazareth. Je ne m'étendrai pas là-dessus. L'association est une association d'intérêt général, classique, créée en 2001. Elle a pour vocation particulière de faire connaître et aimer Marie et de permettre au plus grand nombre, de découvrir toute la beauté, la profondeur et la vérité de la foi chrétienne. Nous essayons d'y travailler avec deux caractéristiques, comme Saint-Maximilien Kolb, en utilisant les moyens multimédia les plus modernes. Nous sommes très investis dans le numérique, on aura l'occasion d'y revenir. Et nous le faisons dans l'esprit de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, avec le souci de l'unité des chrétiens pour que le monde croit. C'est ce qu'il dit dans le traité de la vraie dévotion. L'intuition de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, qui inspire vraiment notre action, est pour nous absolument fondamentale. Elle se trouve au cœur de la vocation de Marie de Nazareth, de notre association. Faire connaître et aimer la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Justina y reviendra tout à l'heure, est absolument essentiel pour que Jésus soit mieux compris.
C'est donc la vocation de l'association, faire connaître et aimer la Vierge Marie.
Absolument. C'est quelque chose que nous répétons énormément sur tous nos documents et à chaque fois que nous présentons l'association. Et alors, je voudrais citer Saint-Louis-Marie de Montfort qui dit « Si donc, comme il est certain, la connaissance et le règne de Jésus-Christ arrivent dans le monde, ce ne sera qu'une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge Marie qui l'a mis au monde la première fois et le fera éclater la seconde. » C'est dans le traité de la vraie dévotion. C'est un texte que là aussi qu'on utilise très souvent, qu'on met un petit peu partout. Et nous avons choisi comme motto, pour résumer tout cela, deux phrases qui sont également de Saint-Louis-Marie de Montfort. La première, c'est « À Jésus par Marie », pour tous les documents généraux de l'association. Et pour les différents services que nous offrons, nous utilisons la phrase « faire connaître aimer Marie ».
Très bien. C'est très intéressant tout ça. Alors, parlez-nous maintenant de vos réalisations. Qu'avez-vous fait pour faire connaître ainsi et aimer et faire connaître la Vierge Marie depuis 2001?
Oui, depuis le 2001. En fait, ça a commencé en 2002. L'association a été créée en 2001. Pour faire court, on peut séparer l'histoire de l'association et ses réalisations en trois phases. À partir de 2002, elle s'est investie dans la création du Centre international Marie de Nazareth, à Nazareth, en face de la basilique, pour ceux qui connaissent.
Très bel endroit, très apprécié.
Très apprécié. Et ce centre international a été inauguré le 25 mars 2011, et notamment la somptueuse chapelle, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre. Le 25 mars 2011, donc le jour de l'Annonciation. Le centre est aujourd'hui propriété de la custode franciscaine qui l'anime, comme cela avait été proposé à l'origine par l'évêque de Nazareth. De 2012 à 2018, l'association s'est investie dans la création de deux apostolats de communication que nos auditeurs doivent avoir entendu parler, le site d'information Aletheia et Hosanna, le réseau social de prière, qui sont tous les deux nés dans nos locaux. Tous les deux ont connu le succès que l'on sait et volent maintenant de leurs propres ailes dans des structures séparées. Pour comprendre la troisième phase, donc de 2018 à aujourd'hui, permettez-moi, France, un petit flashback. En 2004, l'association avait créé trois outils de communication. Notre magazine bimestriel gratuit Ave Maria, dont l'objet était de permettre à nos donateurs de suivre la réalisation du Centre Nazareth. Un site internet, marienazareth.com, qui existe toujours, avec principalement une encyclopédie mariale et le petit texte d'une minute Marie, un bref mail quotidien qui ne parle que de la Mère de Dieu, avec les thèmes les plus variés possibles.
Oui, je vous reviendrai pour une émission pour nous en parler, parce que cette belle œuvre, ça mérite vraiment une émission.
Oui, c'est un peu ce qui fait connaître l'association Marie de Nazareth et ce qui nous permet de diffuser le plus largement possible la connaissance de la Vierge Marie sous tous ses aspects. En 2018, nous avons rénové le journal Ave Maria et avons ajouté des textes de spiritualité mariale. Nous avons également relancé une minute avec Marie qui a atteint 80, 90 000, voire 100 000 abonnés.
Ce qui est assez considérable.
Oui, c'est assez considérable. Oui, c'est assez important. En tout, les différents services que nous proposons, on a environ 225, 250 000 adresses e-mail.
Très bien. Bah, écoutez, je sais, pour travailler avec vous, cher Jérôme, qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'association Marie de Nazareth. Est-ce que vous voulez bien revenir pour une prochaine émission, nous parler des services et de tous nos projets, parce qu'on fourmille d'idées chez Marie de Nazareth.
Oui, ça n'arrête pas, en effet.
Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup, Jérôme. Et alors, à très bientôt. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, durant le mois d'octobre, nous écouterons différents Magnificat. Ce cantique reprend les paroles de plusieurs chants de l'Ancien Testament pour en faire le cantique d'action de grâce de l'Église. Alors aujourd'hui, nous en écouterons la version grégorienne, magnifiquement, comme toujours, chantée par les moines de Fongombeau.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Thank you.
êtes bien sur Radio Courtoisie et vous écoutez l'émission Magnificat. Alors Justina, comme je le disais en début d'émission, tout au long de l'année, nous comptons sur vous pour nous présenter des enseignements qui auront toujours un lien avec la Vierge Marie. Et comme je le disais, la théologie, c'est votre domaine. Mais pouvez-vous commencer par me dire en une minute qui vous êtes? Et tout d'abord, bonjour Justina.
Oui, bonjour France. Et merci beaucoup à Radio Courtoisie de m'accepter ici.
Alors, aujourd'hui, vous allez nous faire une introduction au principe de théologie, c'est ça?
Oui, mais très je bien. Me présente d'abord. Donc, je suis une chrétienne orthodoxe pratiquante, diplômée avec un master 2 de théologie à l'Institut orthodoxe Saint-Serge. Mmh. Je suis aussi membre du conseil d'administration du vicariat Sainte-Marie et Saint-Alexis, qui est rattaché à la métropole de France du patriarcat de Constantinople. Et je collabore aussi avec le site orthodoxie.com et orthodoxie.tv, avec la bénédiction du père Jif Kopanev, et je me charge à assurer une présence orthodoxe sur TikTok, donc orthodoxie.tv. Et aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une montée de l'intérêt vis-à-vis du phénomène religieux, et il faudrait éviter toutes sortes d'impostures, et c'est pour ça que je le fais sur TikTok notamment. Bref, est-ce que nous allons pouvoir passer à des choses sérieuses maintenant?
Oui, alors parlez-nous de ce titre attribué à la Vierge Marie, Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, littéralement, qui a enfanté Dieu.
Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons commencer ce cycle de réflexion à propos du titre de Théotokos que l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe attribuent à la Vierge Marie. Cette idée demeure toujours scandaleuse. Et pour le dialogue interreligieux, on entend beaucoup de remarques ou des questions avec lesquelles on pense nous piéger. Je tiens à préciser que ma démarche est purement intellectuelle. Si certains de nos auditeurs ne sont pas chrétiens ou bien ne sont pas croyants, je ne cherche pas à faire du prosélytisme bête et méchant, mais plutôt à élargir la culture générale de ceux qui le souhaitent. Tout ce qui peut être dit ensuite est à prendre ou à laisser, et pourquoi pas pour ceux qui veulent vérifier mes propos et aller plus loin, quitte à nous faire parvenir des remarques pertinentes. Je reste ouverte aux questions et à toute polémique digne de ce nom. Je vais devoir aussi expliquer quand même la particularité de qu'est-ce que c'est que la théologie. Ça va être important pour comprendre toute la suite qu'on va aborder dans les émissions suivantes. La théologie a ses particularités. Premièrement, elle est scandaleuse par essence, et vous verrez bien pourquoi, puisque c'est une théologie chrétienne, et le christianisme est scandaleux. En second temps, elle doit être très très précise dans son langage et les termes employés, car ils nous ont coûté littéralement des vies. Et comme le disait aussi mon enseignant d'homilétique, un bon prêche doit être comme une mini-jupe, suffisamment court pour attirer l'attention et suffisamment long pour englober l'essentiel. Maintenant, nous allons commencer. Donc, la Mère de Dieu.
Oui, juste une petite question. Pourquoi un cours d'homilétique? Et qu'est-ce que c'est que l'homilétique?
L'homilétique est une discipline qu'on enseigne au séminaire ou bien à la fac de théologie. C'est l'art de faire des homilies, justement. D'accord. Comment très construire bien. Une homilie. Très
bien. La Mère de Dieu, est-ce que c'est un vestige du culte d'une déesse mère adaptée au christianisme, ou bien sommes-nous des ignorants qui sombrent dans le paganisme en affirmant l'absurdité selon laquelle le Dieu infini aurait été créé par une femme mortelle?
Alors, se poser les questions, c'est tout à fait légitime, mmh. et c'est même un signe de bonne santé mentale. Mais il faudrait éviter de se donner des réponses trop faciles et évidentes, comme quoi que les chrétiens sont idiots, par exemple. Si le terme est là, il y a peut-être des bonnes raisons. Donc, j'aimerais justement, dans cette partie, commencer à démontrer que l'idée selon laquelle la vénération de la Mère de Dieu n'est pas un produit de syncrétisme. Pour cela, il suffit de voir la chronologie. Selon la tradition, Marie a vécu auprès de l'apôtre Jean, car le Christ a confié sa mère à son apôtre le plus fidèle, mais aussi le plus jeune. Nous ne connaissons pas la date exacte de sa naissance au ciel, mais selon l'historien de l'Église Eusèbe de Césarée, cela s'est produit en l'an 48 après Jésus-Christ, et selon d'autres historiens, il y a des dates plus tardives. Les premières représentations de la Vierge remontent aux catacombes romaines, par exemple les fresques des catacombes de Priscille, qui datent du IIe siècle. C'est-à-dire que c'est une période où les chrétiens étaient obligés de se cacher pour célébrer l'Eucharistie. Car le christianisme avait le statut juridique de superstitio, et il faut bien comprendre pourquoi. Je précise que dans le droit romain, les religions, ce qu'on appelle les religions aujourd'hui, avaient des statuts juridiques différents. Il y avait religio, qui est la religion tout court, la religion d'État, le culte impérial, obligatoire pour tout le monde, sauf à quelques dérogations. Ensuite, religio licitae, c'est le cas du judaïsme par exemple, c'est une religion autorisée et traditionnelle sur le territoire romain, et d'ailleurs les juifs ont été exonérés de la participation au culte impérial. Et le christianisme était perçu comme superstitio. Alors ce n'est pas tout à fait le mot superstition, c'est surtout vu comme une croyance nuisible qu'on devrait persécuter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce que les chrétiens croyaient en un hippie barbu, comme aujourd'hui on essaie de nous le faire croire, et qu'ils étaient gentils, qu'on les persécutait, mais pour un comportement considéré comme immoral de tous les points de vue possibles de l'époque.
C'est-à-dire,
imaginez, vous êtes un bon juif ou vous êtes un bon romain. Vous entendez parler des gens étranges qui se réunissent la nuit, parfois au cimetière. Hommes et femmes mélangés, chose impensable. Allez voir dans une synagogue, les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Dans les temples romains, pareil, il y avait bel et bien cette séparation de la société. Donc ces gens-là, non seulement les hommes et les femmes se réunissent la nuit, on se demande pourquoi faire, et en plus, ils mangent, paraît-il, leur dieu. Je vous laisse imaginer que la satanique panique des années 80 aux États-Unis, ce n'était rien par rapport à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Donc les chrétiens scandalisaient les mœurs de leur temps et étaient persécutés pour l'athéisme et non pour le fait de croire en Jésus. D'où l'essence scandaleuse du christianisme et de la théologie chrétienne, tout le reste en découle. Donc nous allons continuer la réflexion le dimanche prochain sur Radio Courtoisie de 17h30 à 18h et nous allons voir ensuite... Qu'est-ce que nous allons voir ensuite ? Nous avons parlé des premières mentions de Marie avant justement la période où le christianisme a eu le statut de religio licitae sous Constantin.
Très bien, merci beaucoup Justina pour cette belle introduction qui nous permettra de effectivement découvrir la suite la semaine prochaine. Alors pour cette première émission, voilà, moi je voulais vous parler de la dévotion à Marie qui défait les nœuds. C'est une très belle dévotion. Jérôme, Justina, vous connaissez ?
Un peu.
Oui, Jérôme.
J'ai découvert ça avec Marie de Nazareth.
Ah ben voilà. Alors je vais vous raconter cette belle dévotion. C'est une histoire, ça commence comme une histoire qui aurait pu être triste, qui débute en 1615 en Allemagne. Wolfgang et Sophie von Langenmantel, qui malgré un récent mariage ont de fréquentes disputes, au point d'envisager le divorce, sont très malheureux. Mais comme ils sont très pieux tous les deux, ils ne voulaient pas de cette issue qui semblait pourtant incontournable. Ils vont donc rencontrer un prêtre, le père Jacob Rehm, et celui-ci leur demande, après les avoir écoutés, de prendre ce ruban de mariage qui entoure les mains jointes des futurs mariés lors de leur mariage, et d'y faire des nœuds. Autant de nœuds qu'ils ont de soucis. Je vais citer Isabelle Roland, qui explique dans son livre « Marie qui défait les nœuds, d'un miracle à une dévotion », édité chez MDN Productions, ce qu'il se passa alors. C'est le 28 septembre 1615 que se produisit dans la chapelle du monastère un événement aussi extraordinaire que décisif pour l'avenir du couple. Tandis qu'il priait, le père Rehm eut l'intuition de présenter devant le tableau de la Vierge Mater Terre Admirabilis le ruban de noces. Alors qu'il dénouait en priant le dernier nœud du ruban, celui-ci devint d'une blancheur éblouissante et en même temps, Wolfgang von Langenmantel sentit en son fort intérieur qu'il était délivré de tout ressentiment et le couple fut sauvé du naufrage. Cette histoire a inspiré un petit-fils de ce ménage, le père Hieronymus Ambrosius von Langenmantel. Né chanoine à l'église Saint-Pierre d'Augsbourg en Allemagne, comme vous devez vous en douter, il eut l'idée de faire réaliser un tableau en guise d'ex-voto. C'est Johann Georg Melchior Schmidtner qui le réalisera. Depuis le XVIIIe siècle, ce tableau est vénéré en Bavière. C'est ensuite que fut écrite la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, que vous connaissez peut-être. Elle prend son origine à l'époque où le padre Jorge Bergoglio, futur pape François, reçut une carte de vœux d'une religieuse. Il fut profondément touché par le tableau qui illustrait cette carte. Il décida alors d'en faire réaliser une copie tableau et en diffusant largement l'image en Argentine. Plusieurs copies du tableau furent réalisées par la suite. L'histoire se continue ainsi. Un autre prêtre, le père Arroyo, installa un tableau dans son église en 1996, toujours en Argentine. Et il décida que tous les 8 du mois seraient consacrés à Marie qui défait les nœuds. Alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une ferveur religieuse sans précédent se développa, notamment un nombre impressionnant de confessions. Dès le début, 20 prêtres devaient confesser entre 6h et minuit. Il y eut même 70 000 pèlerins en une journée. Ce phénomène dure toujours actuellement. Alors, vous n'avez que 2 messes chaque jour, mais 6 le dimanche et 8 quand même le 8 du mois. Une autre personne est très importante dans le développement de cette dévotion, le père Juan Ramón Celeiro. C'est donc lui qui a écrit cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, à la demande de ses fidèles. En fait, il avait fait installer une reproduction du tableau dans sa paroisse. Évidemment, l'affluence y devint très importante et il se disait qu'il fallait vraiment nourrir ses paroissiens. Et donc, il a écrit cette neuvaine. Vous trouverez ce tableau en Pologne, en Italie, en Belgique, en Corée, en France, bien sûr, à Toulon, à Aigrefeuille et à Bondy, où le tableau a été intronisé par l'association Marie de Nazareth, mais aussi à Bolène, bientôt dans un très haut lieu de la chrétienté en France, et voilà, au Mexique, en Afrique. Voilà, quelques nouvelles. En France, justement...
Je peux juste interrompre sur le Mexique.
Le Mexique, en 30 secondes, Jérôme, bien sûr, volontiers.
Le développement incroyable d'un sanctuaire à Cancun, au lieu du tourisme mexicain et international. 3 caractéristiques étonnantes de cette dévotion à Marie qui défait les nœuds. La première, c'est que c'est une dévotion qui est extrêmement populaire. C'est une dévotion qui n'est pas intellectuelle, mais qui attire des gens de toute race, de toute situation et de toute religion. La deuxième caractéristique, c'est son développement capillaire. C'est-à-dire que c'est une dévotion qui se développe par elle-même, de personne à personne. Et la troisième, c'est une dévotion qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été marquée par un miracle, mais par une quantité complètement incontable de grâce et de fioriti.
Merci Jérôme. Très important, effectivement. Alors en France, si vous voulez prier Marie qui défait les nœuds, c'est magnifique parce qu'à Saint-Laurent, à Flayosque, près de Draguignan, tous les mardis, une messe est célébrée en l'honneur de Notre-Dame qui défait les nœuds, qu'on connaît aussi sous ce vocable. Mais vous pouvez aussi prier le chapelet à Aigrefeuille-Daunis, en Charente-Maritime, entre La Rochelle et Surgères, tous les lundis, chapelet, tous les mardis, tous les jeudis, enfin tous les jours de la semaine, le chapelet. Vous trouverez toutes les informations sur le site de leur paroisse. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous contacter si vous souhaitez installer avec l'accord de votre communauté ou de votre curé le tableau dans votre église. Nous sommes rodés, si je puis dire, et vous pouvez nous contacter à émission radio courtoisie, le tout attaché, @mariedenazareth, le tout attaché.com. Alors, nous aimerions vous offrir une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Donc, par tirage au sort, écrivez-nous à l'adresse, toujours la même, émission radio courtoisie, le tout attaché, @mariedenazareth.com. Vous nous envoyez un petit mail en nous donnant votre nom, votre adresse, et à 10 d'entre vous, nous offrirons 2 livrets de neuvaine. Pourquoi 2 livrets? Eh bien, parce que vous devrez en offrir un. Voilà, nous sommes tous en mission. Voilà, chers auditeurs, nous serons heureux de vous retrouver dès dimanche prochain, le 8 octobre à 17h30, sur les ondes de Radio Courtoisie. Bonne semaine, merci Justina et Jérôme. Justina, on se retrouve dans 8 jours et nous serons très heureux de vous retrouver. D'ici là, bonne semaine et n'hésitez pas à aller sur notre site mariedenazareth.com.